chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous commençons donc une nouvelle série intitulée « La prière du royaume ». La prière du royaume, c'est évidemment la prière modèle que Jésus a voulu nous donner pour que nous ayons cette prière modèle qui est parfaite, unique, et que par la suite, nous puissions faire aussi en donnant nos propres mots selon les besoins personnels, selon les besoins de la journée, les besoins de la vie, que nous puissions ainsi l'utiliser et en bénéficier. Nous commencerons par l'étude numéro 1. Nous ferons un peu des plus courtes études sur cette prière merveilleuse, le Notre Père. Car c'est très important, très très important. Chers amis, après avoir recommandé à ses disciples de se garder en priant de toute hypocrisie, mais de prier en secret, le Seigneur leur a donné une prière modèle. Nous l'appelons le Notre Père, mais d'après son contenu, nous devrions plutôt l'appeler la prière du royaume. Un jour, après que Jésus avait prié dans un lieu, ses disciples lui ont demandé de leur enseigner à prier comme Jean-Baptiste l'avait fait pour les siens. Il semble que l'homme, dans sa faiblesse, ait vraiment besoin d'une formule définie pour que sa prière ne se perde pas en paroles vagues, parfois même vides, et puisse ainsi le Seigneur, puisque on sait que le Seigneur a bien voulu, il a voulu enseigner cette prière modèle. Et bien des chrétiens devraient s'en souvenir et dire simplement, tout simplement, et je pense avec recueillement, un autre Père, c'est-à-dire la prière du royaume, soit qu'il prie seul, soit que plusieurs se trouvent réunis, elle est cette prière tellement sublime, tellement divine, qu'elle ne vieillit jamais et donc ne pourra jamais devenir banale. En disant « Vous donc, priez ainsi », Jésus recommande aux disciples de se servir de la prière qu'il leur enseigne et lui confère une importance et une bénédiction toute particulière. Et cela doit nous engager à y recourir, surtout dans les moments où nous ne savons comment dire à Dieu ce qui nous agite, parce que souvent nous ne le comprenons même pas. En nous présentant devant Dieu, notre Papa, avec la prière que Jésus nous a donnée, nous pouvons être certains de la bienveillance du Père et de l'exaucement, même de ce que nous ne savons pas exprimer. Aux heures de graves tentations, et il y en a plus que jamais, lorsque on se sent comme harcelé par l'ennemi faibles de corps et d'esprit, en proie aux soucis, au découragement, au burn-out, à l'irritation, surtout aussi lorsque on se trouve avec des malades ou qu'on est troublé par quelques inquiétudes mystérieuses, rien ne saurait faire plus de bien qu'un autre père qui ait dit simplement et lentement, en méditant surtout les grandes demandes qui concernent le royaume. Au milieu de toutes nos peines et de notre pauvreté, soyons, chers amis, reconnaissants au Sauveur de ce don inestimable et divin qu'il nous a légué et, en toutes circonstances, tenons-nous au Notre Père, oui, à la forte prière du royaume, car quand nous le disons, celui qui nous l'a donné, il est présent, notre Père est présent. Faisons, s'il te plaît, toi-même qui écoutes maintenant, faisons l'expérience. Il y a Jésus dans le Notre Père, notre Père qui est aux cieux. Ton esprit doit s'élever jusqu'au ciel où habite le Père, où le royaume trouve son achèvement. Souvent, tes pensées s'arrêtent trop, beaucoup trop sur la terre, et alors il t'est difficile de prier. Pourtant, le Père céleste n'est pas loin de toi. Il descend vers toi quand tu pries. C'est comme si tu parlais à un ami à tes côtés. Puisses-tu donc toujours en être convaincu, mon très, très cher ami. Tu penses peut-être qu'il est plus facile de se représenter le bon Sauveur si proche et qu'en le priant, tu es plus à ton aise. Tu es libre de le prier. Mais pourquoi ne serais-tu pas autant, tout autant à ton aise en t'adressant à ton Papa Céleste, au Père, puisqu'il est vraiment ton Père? Il est vrai que nous devons prier au nom de Jésus. Mais je te demande, d'où vient que tu appelles Dieu ton Père? Si tu as vis-à-vis de lui les droits d'un enfant, n'est-ce pas à Jésus que tu le dois? Peux-tu prier le Père sans te rappeler qu'il est le Père de Jésus-Christ? La prière adressée au Père est toujours une prière au nom de Jésus. Comment ton esprit pourrait-il s'élever au ciel sans y trouver le Sauveur, assis à la droite de Dieu? Réfléchis au Notre Père tout entier. Tu sanctifies le nom de Dieu quand tu crois en Jésus. C'est Jésus qui fonde le règne qui doit venir. C'est par Jésus que s'accomplit la volonté de Dieu sur la terre, car c'est lui qui mettra tous les ennemis sous ses pieds pour que seule subsiste la volonté du Dieu vivant. Tu demandes du pain pour soutenir ta vie. À qui dois-tu la vie si ce n'est au Sauveur qui, en mourant, s'est chargé pour toi de la malédiction de la mort. Qui pardonne les péchés? Ou par qui as-tu la possibilité du pardon? Qui nous secourt dans la tentation, qui nous délivre enfin de tout mal et qui nous arrache aux griffes du malin? Tu vois très bien que tu trouves Jésus dans toute la prière du royaume. Chaque fois que tu en prononces les demandes, tu es en sa présence, aussi bien qu'en celle du Père. Et c'est Jésus qui a dit, « Quand je serai élevé au-dessus de la terre, je les attirerai tous à moi. » Alléluia. Le Sauveur t'apprend à dire notre Père. Cela signifie que tu ne dois jamais te présenter seul devant le Père, mais toujours en communion avec tous ceux qui, comme toi, ont besoin du secours de Dieu. En priant, tu dois être la voix et le représentant de toute la création qui souffre et qui gémit. C'est ainsi que tu pries en enfant du royaume. Mais que de fois, quand nous prions, nous ne songeons que à nous-mêmes et aux nôtres. Et pourtant notre cœur devrait être large, oui, beaucoup plus large, comme celui du Sauveur qui a donné sa vie pour qui? Pour absolument tous, oui, pour tous, afin de nous unir tous en lui. Gloire à Dieu. Nous répétons bien quelques formules qui semblent venir d'un cœur plus confiant, mais elles ne font qu'accompagner la prière en boitant, on peut dire en boitant, car souvent le cœur n'y est pas toujours. Que le Notre Père nous enseigne à beaucoup mieux prier. Si nous savions bien le dire en y mettant tout notre cœur, combien ne ferions-nous pas progresser la cause du royaume? Chers amis, les trois premières demandes de la prière du royaume, selon saint Matthieu chapitre 6, versets 9 et 10, ont pour objet le Père, notre Papa lui-même, son nom, son règne et sa volonté. Ce qui en effet importe le plus pour nous aussi, c'est que tout ce qui est de Dieu acquiert chez nous toute sa valeur. En adressant ces demandes au Père, nous prions donc au fond pour nous. Oui, puisque c'est nous qui bénéficierons de leur exaucement. Si le nom de Dieu n'est pas reconnu saint, si son règne ne s'édifie pas, si sa volonté est méprisée, alors nous restons dans une triste situation. C'est d'abord par nous et parmi nous que son saint nom doit être sanctifié. C'est chez nous que son règne doit venir, que sa volonté doit s'accomplir. Il serait étrange si nous devrions adresser des demandes à Dieu pour lui-même, comme s'il avait besoin de notre faible prière pour réaliser ce qui est sa chose, ce que lui seul peut vraiment faire. Voyons de plus près pourquoi nous devons tellement prendre à cœur ces demandes. C'est précisément parce que tout ce qui en fait l'objet est pour notre bien. Si nous jugeons inutile de nous en occuper, si nous trouvons qu'il importe peu que son saint nom soit tenu en honneur dans le monde et que son règne s'établisse sur toutes les créatures, que toutes les volontés qui ne viennent pas de Dieu, si puissantes sur la terre, puissent disparaître. Dieu n'intervient pas et laisse les choses suivre leur cours. Ils sont innombrables, ceux qui ne s'inquiètent pas du tout de son saint nom, ni de rien de ce qui a rapport à lui, et d'autres désirent toute autre chose que de vivre sous son règne. Et combien ne connaissent que leur propre volonté, ou se laissent mener par, on peut bien dire, par les ténèbres. Et vous le savez que c'est vrai. Dieu n'use pas de contraintes pour les sauver. Ils sont absolument libres, libres de se précipiter dans l'immense misère qui est leur partage, loin de lui. Il attend que les hommes, les femmes, j'ajoute les femmes, parce que la Bible, quand elle parle des hommes, elle inclut automatiquement les femmes. Alors je ne voudrais pas que vous, mes chers amis féminins, vous, mes sœurs adorables, que vous pensiez que Dieu est macho. Non, non, non. Il attend que les hommes et les femmes désirent au moins ce qu'il veut leur donner. Et Jésus nous a mis sur les lèvres la prière du royaume afin que nous y associons intérieurement et que Dieu agisse pour que tous les êtres créés reconnaissant lui le Dieu qui seul peut faire leur bonheur. Avant la venue du Christ, presque personne ne priait plus dans l'esprit de ces trois demandes. Pourtant, cet esprit n'était pas inconnu en Israël. Les psaumes et les prophètes en témoignent. Et si on ne l'avait pas oublié de plus en plus, bien des choses auraient été totalement différentes. La voix de l'Éternel, qui autrefois avait parlé par la bouche des prophètes, n'aurait pas cessé de se faire entendre. Au temps de Jésus, quelques rares fidèles qui attendaient le royaume de Dieu étaient seuls, absolument seuls, à représenter les grandes demandes qui devrait sans cesse monter du cœur de l'homme, et vous avez compris, j'ajoute les femmes, vers Dieu. Ils furent exaucés quand Dieu envoya son Fils bien-aimé, par qui seules elles peuvent être réalisées, puisque c'est lui, oui, c'est lui qui est l'annonciateur de l'avènement du royaume. Le premier de tous les hommes, Jésus a dit parfaitement les trois premières demandes de la prière du royaume. Toutes ces prières ont certainement eu pour fond le contenu de ces demandes. Il était la voix et le représentant de toute l'humanité. Et si le Fils de l'homme n'avait pas prié au nom de tous, le monde n'aurait jamais vu les grandes choses accomplies, qui ont été accomplies depuis son apparition pour la sanctification du nom de Dieu, pour la venue de son règne et la réalisation de sa volonté. Les disciples doivent donc apprendre à prier comme lui. C'est en pensant aux trois grandes demandes pour le royaume qu'il leur a dit, en Saint Luc chapitre 18 verset 1, de prier sans cesse et de ne se lasser jamais. Ils se tiennent ainsi à ses côtés, appuyons pour ainsi dire sa prière, croyons en lui, en son intercession et en son pouvoir. Jésus a révélé et transfiguré le saint nom de Dieu sur la terre. Il a travaillé à l'avancement de son règne. Il a fait la volonté du Père en lui obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Et quand nous adressons au Père la prière du royaume, nous devons prier de même le Fils, Jésus, de continuer l'œuvre qu'il a lui aussi la puissance d'accomplir au ciel et sur la terre. Par son exemple, Jésus nous enseigne deux choses. Premièrement, nous voyons combien lui, qui était seul, a tout obtenu par ses prières. C'est une consolation et c'est un encouragement dans les temps où ceux qui prient véritablement sont rares. Mais s'ils ne sont que deux ou trois, oh oui, même si nous sommes que deux ou trois, Jésus, selon sa promesse, est au milieu de nous et nous pouvons obtenir beaucoup. Aussi pour l'ensemble, pour le commencement d'un renouveau qui gagnera de proche en proche. Ne nous laissons donc pas décourager, non, ne nous laissons pas décourager par le petit nombre, même si nous sommes que quelques-uns, le petit nombre de ceux qui veulent faire leur devoir. Que chacun fasse le sien pour le bien de tous, comme s'il était le seul fidèle. Donc tous ceux qui ne disent pas de tout leur cœur les demandes pour le royaume sont infidèles. Il faut donc que les saints combattent pour la cause du royaume, ainsi qu'il est dit dans le livre de Daniel, chapitre 7, verset 22, jusqu'à ce que l'ancien des jours vienne et que le jugement puisse être donné au sein du souverain et que le temps est venu que les saints puissent entrer en possession du royaume. Car Dieu veut, il veut rattacher son œuvre sur terre à celle des hommes, et j'ajoute, vous l'avez compris, les femmes, pour que le salut de la créature s'accomplisse. Combien peu ont, hélas, songé à cela. En second lieu, les disciples du Sauveur doivent imiter Jésus, non seulement dans la prière, mais dans le don de toute sa personne à la cause pour laquelle il prie. De même, nous devons témoigner par toute notre vie que nous nous considérons comme des instruments de la volonté divine, c'est-à-dire pour la réaliser avec l'aide de Jésus, par la patience et par la foi. Puissent donc les disciples qui prient croire et agir comme Dieu le commande et devenir plus nombreux en ce temps si grave dont les besoins sont si grands. Ensuite, il est dit que ton saint nom soit sanctifié. Chers amis, nous posons d'abord la question, où le nom de Dieu doit-il être sanctifié? Et nous répondons que c'est dans le monde entier, par toutes les créatures qui sont au ciel, sur la terre et sous la terre. Si celui qui prie sanctifie le nom de Dieu, il souffre, oui, il souffre de ce qu'il y a encore tellement de créatures qui ne le sanctifie pas en disant « Notre Père ». Il se sent en communion avec d'autres. Mais il sait aussi que la grandeur du Saint-Nom de Dieu est loin, loin d'être reconnue par toute la création, et que pourtant la création ne peut trouver la paix tant que le Saint-Nom de Dieu n'est pas sanctifié partout, ubéral. En outre, celui qui prie a conscience de jouir d'un grand privilège et il souhaite à toutes les créatures et aussi, j'ose le dire, au Père qui les aime, que ce Saint-Nom, qui devrait être vénéré au-dessus de tous les autres, ne soit pas plus longtemps négligé, et voire même insulté. On sanctifie ce que on met à part, au-dessus de toutes les choses vulgaires. Et c'est ainsi que le Saint-Nom de Dieu doit être mis à part et doit être placé si haut par toutes les créatures que tout le reste n'ait plus de valeur à leurs yeux. Ce Saint-Nom, avec tout ce qu'il affirme, doit vraiment doit leur signifier ou devrait leur signifier absolument tout. À la question suivante, quel est le nom de Dieu qui doit être sanctifié? Eh bien, nous répondons simplement, son nom, le Père. Oui, en commençant par l'invocation « Notre Père qui est aux cieux », nous soupirons intérieurement. Puisse donc tous les hommes, et j'ajoute, vous l'avez compris, les femmes, t'appeler Père. Et nous ajoutons immédiatement que ton Seigneur soit sanctifié. Cela signifie que toutes les créatures devraient retrouver en Dieu leur Père, c'est-à-dire, d'une part, prendre conscience de son amour paternel envers les hommes, et d'autre part, l'aimer finalement. Oui, l'aimer, se soumettre à lui comme à un père à qui on obéit volontiers et en qui on a toute confiance et qu'on met tout son espoir. Mettons tout notre espoir en notre Père céleste. Malheureusement, l'humanité est très loin de reconnaître en Dieu son Père, malgré les bienfaits paternels qu'il lui dispense chaque jour. Elle reçoit tout de sa main, comme les enfants ingrats qui acceptent tout de leurs parents sans les remercier, ni s'inquiéter d'eux. De même, les hommes abusent de la bonté de Dieu et leur cœur est loin de lui. Est loin de lui quand ils ne vont pas jusqu'à s'opposer à lui. Le disciple qui prie en est douloureusement ému. Et il songe nuit et jour à toutes les créatures qui devraient revenir au Père, revenir et sanctifier son Saint-Nom. Le sentiment filial de l'homme fut troublé dès l'origine par la fameuse question du serpent. Dieu a-t-il dit réellement que vous ne mangerez pas de toutes les arbres du jardin? C'est-à-dire, peut-il vraiment vous avoir défendu de toucher au meilleur des fruits qui rend semblable à lui? Est-ce ainsi qu'il vous témoigne ses sentiments paternels? Les hommes se laissèrent séduire, ils se sont laissés séduire, et depuis lors, ils sont soumis au pouvoir étranger qui est opposé à Dieu. Ils ont cru devenir des dieux eux-mêmes, mais c'est Satan qui est devenu leur Dieu. Et il s'est arrogé sur eux les droits, oui, les droits qui ne revenaient que au Père. Avez-vous compris cela? Je le répète, c'est Satan, c'est l'ennemi qui est devenu leur Dieu. et qu'il s'est arrogé sur eux les droits qui ne revenaient que au Père. Donc ils se sont, eux aussi, opposés à Dieu en lui déclarant « Oh, nous sommes tes égaux. Tu vas voir, nous allons prouver au monde entier que ni sur Mars, ni sur d'autres astres, tu existes, car tu n'existes pas. » Plus les ténèbres ont d'empire ou l'emprise sur les hommes, plus ils méprisent le saint nom de Dieu. Pour que ce saint nom soit de nouveau sanctifié par eux, il faut qu'ils sortent du domaine des ténèbres et qu'ils reviennent à Dieu comme l'enfant prodigue. Il faut donc prier pour que Dieu leur en donne la volonté et la force et que l'humanité cesse d'être partagée entre Dieu et les ténèbres. Christ est venu pour écraser le serpent et pour réconcilier les hommes avec Dieu. Il leur donne donc son Esprit Saint, qui leur apprend à dire « Abba, Père ». Quand toutes les créatures répéteront cette prière, c'est-à-dire la demande, que ton saint nom soit sanctifié, alors ce sera enfin complètement exaucé. Nous devons encore sanctifier le saint nom de Dieu en reconnaissant et en vénérant ses attributs sublimes. Mais que font les hommes? Ne parlons même pas des païens qui ont changé la gloire du Dieu immortel en une image semblable à celle de l'homme mortel, telle que des oiseaux, des quadrupèdes et même des reptiles. Notez Romains, chapitre 1, verset 20 jusqu'au verset 23. Mais jusqu'à aujourd'hui, une multitude d'hommes agissent comme si Dieu ne possédait pas toute puissance et toute science, comme s'il n'était pas partout présent, ni saint, ni juste. Ils ne croient pas qu'il entend nos prières, ni qu'il s'occupe des hommes parce qu'il est trop loin, pense-t-il, trop loin au-dessus d'eux. Il nie donc qu'il se manifeste par des grâces particulières et des châtiments exceptionnels. Alors ils attribuent tout au hasard et ils éliminent Dieu de l'histoire de l'humanité, beaucoup de ses œuvres et de ses miracles leur sont donc devenus un scandale. Ils ne s'attachent au monde invisible uniquement ou que par la superstition, par les choses de égocentriques et ésotériques, toutes ces choses défendues, Et souvent, ils abusent du Saint-Nom de Dieu d'une manière abominable. Tout cela, chers amis, devrait changer. Et les enfants véritables du royaume devraient en faire leur pensée constante et demander à Dieu l'achèvement de l'œuvre du salut qui a été commencé par Jésus-Christ. Mais tout ne changera que lorsque toute l'humanité vénérera Dieu en tous ses attributs et que son Saint-Nom sera sanctifié par toutes les créatures. Certains chrétiens, très croyants, sont spécialement exposés à ne pas sanctifier le Saint-Nom de Dieu comme il devrait l'être. Dieu lui-même s'est défini et il a dit à Moïse comment il veut être nommé, Exode chapitre 34, verset 6. L'Éternel Dieu, miséricordieux et compatissant, il est lent à la colère, il est riche en bonté et en fidélité. On sanctifie le nom de Dieu en donnant à ses paroles le sens le plus large, mais si on en diminue la portée, on ne le sanctifie pas. Or, il arrive que dans le monde des croyants, on ait une tendance à vouloir le sanctifier en opposant la sainteté et la justice de Dieu à sa miséricorde incarnée en Jésus-Christ. On pense que la sainteté exige qu'il se montre dur, qu'il se montre très sévère envers ceux qui lui désobéissent et qui se détournent de lui. Même si cette sévérité risque de peupler l'enfer plus que le ciel, on ne croit pas que Dieu puisse conserver son amour à des chrétiens parfois dégénérés et de les ramener, j'ai bien dit, de les ramener à lui en leur renouvelant ses grâces, puisqu'ils ont dédaigné les dons du Saint-Esprit, il faut qu'ils deviennent ce qu'ils doivent être sans le secours de ces dons qui ne peuvent leur être dispensés à nouveau ou qu'ils sombrent finalement dans l'abîme. Oui, moi-même, j'ai fait partie de ceux-là et j'ai honte de vous le dire. Quant aux générations disparues, dont la foi n'a pas été entière, une certaine théologie leur dénie absolument tout droit à la miséricorde. Pour elle, il n'y aura, au jugement dernier, que la condamnation. Un point, c'est tout. Mais ce n'est pas ainsi que le Saint-Nom de Dieu est sanctifié. On en fait, et aussi du nom de Jésus, un épouvantail pour les pécheurs. Et cela, en dépit des consolantes assurances qui ont été données par Dieu et par Jésus. Et quoique celui-ci ait incarné dans sa personne la grâce et la bonté du Père, les attestant dans l'amertume de la souffrance et de la mort. Nous ne sanctifions le saint nom de Dieu et nous n'encourageons la créature malheureuse à recourir à lui que si nous croyons vraiment, fermement, à son extrême miséricorde. Alléluia. Puisse donc les disciples du Sauveur, en répétant la prière du royaume, ne pas être de ceux qui, au fond, tiennent fort peu à voir le saint nom de Dieu sanctifié. Ils veulent bien jouir eux-mêmes de l'amour paternel de Dieu en Christ, mais ils sont disposés à en exclure d'autres, précisément ceux, oui ceux, qui en ont le plus impérieux besoin. Ils oublient ainsi que le Sauveur serait mort sur la croix presque en vain. Oh, notre Père qui es aux cieux, puisse ton saint nom et celui de ton Fils bien-aimé, plein de grâce et de miséricorde, être sanctifié en tout lieu, puisse-t-il l'être bientôt, car la détresse est grande de nos jours. Chers amis à l'écoute, demain, nous continuerons, Dieu voulant, la suite de la prière du royaume par que ton règne vienne. Prions maintenant ensemble pour terminer la prière modèle que Jésus nous a donnée. Oui, notre Père qui es aux cieux, que ton saint nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et à demain matin, Dieu voulant, pour la suite de cette série. Que le Seigneur vous bénisse et sachez qu'il vous aime. Et je vous aime et je vous embrasse tous avec tout mon amour fraternel. Que le Seigneur vous bénisse. À demain. Au revoir.